J'étais vraiment content. En plus que j'ai été placé, ma première affectation, j'ai été placé dans le quartier Saint-Michel, où est-ce que je pense que vous avez eu la chance de parler au sergent d'expérience dans son entrevue, parce qu'il travaille actuellement. J'ai la chance de travailler à Saint-Michel dans ma communauté, pour pouvoir m'impliquer auprès des gens de ma communauté. Ça a été vraiment une expérience enrichissante, parce que moi, j'ai toujours voulu donner. Si je me suis engagé dans la police, puis j'ai voulu faire ce parcours-là, c'est pour pouvoir donner, puis pour pouvoir montrer l'exemple aussi aux autres, que ce soit à des jeunes de toutes les communautés, de dire qu'on peut, peu importe d'où est-ce qu'on arrive, d'où est-ce qu'on vient de notre parcours, mais qu'on peut réussir et qu'on peut faire quelque chose puis redonner aux autres, que ce soit par mon exemple, que ce soit par mon parcours, que ce soit par d'où est-ce que je viens.
Alors, agent Dorilas, je vois que vous avez été très bien préparé et vous pouvez faire toute l'émission avec moi parce que vous avez quand même un bon bagage.
Non, mais quel beau parcours, hein?
C'est très intéressant, je vous en félicite. Mais une question que j'aimerais poser à vous deux, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, le mois de l'histoire des Noirs, ça représente quoi pour vous également? Exactement.
Ben, de mon côté, c'est justement de parler de l'histoire, hein, l'historique des Noirs partout dans le monde, notamment au Canada et au Québec, qui réfère pour moi à l'époque, oui, du temps de l'esclavage, les difficultés qu'on a pu rencontrer et la force que la communauté noire a dû faire preuve pour passer à travers différentes épreuves. Mon père est un Afro-Américain, donc la famille a vécu l'esclavage des champs de coton, donc dans les arrière-grands-parents. Donc, il y a toute une histoire dans ma famille, comme dans l'ensemble de la communauté noire. Alors, c'est de remémorer ça, mais aussi regarder vers l'avenir, hein. Se serrer les coudes, se serrer les bras au sein de la communauté, regarder vers l'avenir et faire face aux difficultés et démontrer les beaux côtés aussi et les belles opportunités qui s'offrent à la communauté noire, pour moi.
Et une des choses que je peux vous dire, hein, surtout à Jean-Anthony Dorilas, l'école de Montréal-Nord a donné quand même des vedettes, de grandes vedettes. Hein. Et au basket, hein, au football, par exemple, il y a des gens de Montréal-Nord qui font des millions actuellement. Hein?
Effectivement. Puis vous voyez le lien que je veux faire avec ça, moi, par rapport au mode d'histoire des Noirs, mais ça nous permet justement de nous rappeler que ces gens-là ont grandi dans les quartiers populaires de Montréal qui ont souvent été ostracisés ou souvent été étiquetés, mais qu'il y a des belles réussites qui se passent, puis il y a des belles choses qui se font dans la communauté, dans ces quartiers-là, puis des gens de la communauté, que ce soit noirs, hispaniques ou autres, mais on a la possibilité d'être dans une société qui nous accueille puis qui nous donne des possibilités justement d'avancer et de pouvoir mettre à profit nos talents, que ce soit au basket, que ce soit si je suis un ingénieur, que ce soit si je suis un policier, que ce soit si je suis un écrivain, que ce soit si vous, M. Laurent, avec votre tribune, pour parler des choses, ça met en valeur les gens de la communauté pour nous permettre de voir où est-ce qu'on est rendu puis où est-ce qu'on peut se rendre encore plus loin pour les générations à venir. Moi, j'ai la chance d'avoir un petit garçon qui a 15 mois bientôt, puis je vois d'où mes parents m'ont amené, comment ils ont travaillé fort. Je me dis que je vais travailler trois fois plus fort parce que je veux que mon fils se rende trois fois plus loin où est-ce que moi je suis rendu. Donc, c'est des genres d'opportunités comme le mot d'histoire des gens qui me permettent de pouvoir dire, là, on va aller plus loin.
Alors,
ce qui m'amène, monsieur Laurent, à inviter vos auditeurs à venir entendre d'autres parcours comme celui d'Anthony Dorilas, de policiers, policières issus de la communauté noire, donc qui travaillent pour la SPVM. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, on a planifié trois activités pour la communauté. L'activité principale sera diversité en uniforme. Alors, c'est une belle activité de recrutement qui aura lieu les 26 et 27 février prochains. Nous, le SPVM et nos 14 agences partenaires. Alors, c'est vraiment des agences en sécurité publique, notamment la Sûreté du Québec, la Gendarmerie royale du Canada, les Forces armées canadiennes, les services frontaliers. Alors, sur nos réseaux sociaux, dans les prochains jours, sera affichée la façon pour s'inscrire et ce sera en virtuel, évidemment, donc sur Zoom. Alors, les 26 et 27 février, il y aura une plage horaire où on peut choisir l'heure à laquelle on est intéressé d'aller rencontrer une agence de sécurité publique. Et là, pour l'instant, la SPVM serait prévue pour le samedi, possiblement l'avant-midi. Donc, vous allez voir l'horaire sur nos médias sociaux, Facebook et Instagram. Ça nous fait plaisir de répondre aux questions et surtout de parler d'un parcours de nos policiers ici de la communauté noire. Deux autres événements, les citoyens de Saint-Michel Certains citoyens recevront des invitations par les partenaires, notamment la Maison Haïti ainsi que le Centre Lassalien. Alors, en collaboration avec le poste de quartier 30, le 23 février, on va tenir là également une activité qui est la diversité et le travail policier. Et là aussi, il y aura des policiers du poste de quartier 30 ou du quartier général, issus de la communauté noire. On va présenter leur parcours et leur travail policier, mais également, on va expliquer les opportunités de carrière. On recherche davantage de citoyens qui deviennent candidats policiers issus de la communauté noire. Donc, on va faire cette activité-là le 23 février. Des invitations seront transmises à la communauté de Saint-Michel. Et un dernier événement, je m'arrête là-dessus, dans Côte-des-Neiges, un secteur diversifié là également, alors en collaboration avec le Carrefour Jeunesse-Emploi de Côte-des-Neiges, le 25 février, nous tiendrons un atelier sur les métiers policiers. Là également, grâce aux partenaires du poste de quartier 26 et la collaboration de ce poste, nous allons lancer des invitations à des gens de la communauté pour assister à une rencontre virtuelle, présenter les parcours policiers ici de la communauté noire et notre programme AEC pour la diversité policière. Alors, on souhaite recevoir de vos auditeurs en grand nombre ou des parents aussi qui viennent entendre ce qu'on a à leur dire pour leurs enfants, pour les encourager à postuler chez nous, M. Laurent.
Alors, ça a été un agréable plaisir de vous entendre. On va probablement laisser d'autres questions à une prochaine occasion. Et c'est intéressant pour vos agents recruteurs et pour vous également. Mais je crois que le service de la police a du travail à faire, par exemple.
Et on y travaille, on opère le changement. Vous avez tout à fait raison.
Alors, je vous dis un grand merci d'avoir participé à cette émission et je vous souhaite bonne chance et bon succès avec vos agents recruteurs.
Merci en pile et bon mois de l'Histoire des Noirs.
Eh bien, moi-même tout, Mandio, ça fait mon pile plaisir de recevoir.
Au revoir.
Au revoir. Alors, c'était l'inspecteur Miguel Alston et l'agent recruteur Anthony Dorilas. Nous allons faire une petite pause et je vous reviens avec d'autres informations. Vous êtes sur la bonne longueur d'onde, 90,3 FM.
Tu devrais aller chez Jean Coutu.
Vous souffrez de diabète, hypertension, cholestérol. Vous devez renouveler vos prescriptions. Vous avez une nouvelle prescription. Ou encore, vous avez de la difficulté à suivre vos prescriptions. Eh bien, votre solution santé est la pharmacie Jean Coutu, Beverly Salomon. Nommé meilleur laboratoire de toutes les pharmacies Jean Coutu au Québec. 514-251-0555. Situé au 59 65 rue Bélanger, coin Lacordaire. Et n'oubliez pas, nous livrons partout. Pharmacie Jean Coutu, Beverly Salomon, meilleur laboratoire au Québec.
Je m'en vais chez Jean Coutu, je m'en vais chez Jean Coutu, je m'en vais chez Jean Coutu.
Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de familles sont interdits et les déplacements vers d'autres régions doivent être évités. De plus, en zone rouge, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca/coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps. Sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
Maintenant que nous avons dit au revoir à l'année 2020, recevons à bras ouverts l'année 2021. Cette année, Digicel International vous donne plus d'avantages et plus de primes à gagner. Envoyez 20 $ de recharge en Haïti et vous avez la chance de gagner 21 $ sur une carte Digicel Pay. Achetez 20 $, gagnez 21 $. Avec des milliers de gagnants en 2020, maintenant c'est à votre tour de gagner votre part de primes. Visitez digicelinternational.com, téléchargez l'application Digicel International ou rendez-vous chez un agent pour envoyer une recharge et gagner. Termes et conditions applicables. Cette promotion prend fin le 28 mars.
Alors, et j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois à l'émission Samedi Midi Inter, Madame Nadine Giraud. Et je crois qu'elle n'a pas besoin de présentation, je vais le faire quand même. Alors, Madame Giraud est ministre de l'Immigration et des Relations internationales. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue, Madame Giraud, à l'émission Samedi Midi Inter.
Merci beaucoup, M. Laurent. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Alors, être ministre de l'immigration et des relations internationales, c'est tout un poste.
Oui, en fait, ce sont deux postes, parce que ce sont deux ministères, le ministère des Relations internationales et de la francophonie et le ministère de l'immigration, donc deux ministères différents, et la région des Laurentides aussi dont je m'occupe. Oui, une belle charge de travail.
En effet, c'est quand même important de faire une courte histoire hein, de votre arrivée et au Canada et Madame la ministre, et partir des États-Unis pour venir s'établir dans la belle province de Québec. Alors, il y a toute une différence.
Oui, en fait, je suis née aux États-Unis et je suis venue au Canada, mais très, très jeune. En fait, ce sont mes parents qui nous ont amenés au Canada. On est arrivé à Montréal, on a passé un an ou deux, je me souviens, à Montréal, et ensuite on est parti pour Gaspé. Et j'ai fait ma jeunesse, mes années de jeunesse, jusqu'à l'âge de 12 ans, là, à Gaspé, en Gaspésie. Et c'est ça. Alors, c'est pourquoi j'aime autant la neige, je pense. La neige et les sports d'hiver, parce qu'on a été inculqués à la neige et aux sports d'hiver très, très jeunes, dans notre jeune carrière.
Alors, et beaucoup de romans également. Alors, quand vous venez de la Gaspésie, les fruits de mer, vous connaissez ça très bien.
Effectivement, j'aime beaucoup les fruits de mer, mais étonnamment, je n'aime pas le poisson, par exemple.
Le bon homard, par exemple.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Alors, Madame la ministre, je crois que votre participation à l'émission a une raison bien importante. En plus de vos responsabilités comme ministre de l'immigration et relations internationales, on est au mois de février, le mois de l'histoire des Noirs. Et je crois que c'est quand même important, et comme une personnalité au sein et du cabinet du Premier ministre Legault, d'en parler de votre expérience et le message que vous avez à passer pour ce mois de l'histoire des Noirs.
Oui, tout à fait. Écoutez, c'est un mois que je trouve vraiment fantastique, le mois de l'histoire des Noirs. Cette année, c'est le 30e anniversaire de la célébration du mois de l'histoire des Noirs dans notre métropole. Ça fait 30 ans. Et je trouve que c'est tellement une belle opportunité de souligner nos succès, nos défis, souligner les histoires à succès des Québécois et Québécoises noires qui ont vraiment façonné notre culture, la vitalité de la langue française et toute l'importance que les différentes personnalités qu'on connaît de mieux en mieux, mais qu'on ne connaît pas encore assez, et toute la contribution de toute la communauté noire au Québec. On ne pense qu'à des gens comme bon, Dany Laferrière, exemple, premier Québécois d'origine haïtienne à être élu à l'Académie française, Boucar Diouf, qu'on connaît bien aussi, Jean Alfred, au niveau politique, qui était le premier député noir à faire son entrée à l'Assemblée nationale. C'est quand même extraordinaire. Là.
Au Parti québécois. Au Parti québécois.
Oui, au Parti québécois, oui, mais...
Il y a même une rue qui porte son nom, et à Gatineau.
Oui. Tout à fait. Puis, écoutez, dans d'autres parties, il y a Yolanda James aussi. Donc, je trouve qu'il y a vraiment, vraiment une très, très belle histoire à raconter, des beaux succès à souligner. Et ce qui est intéressant, ce qui est bien aussi, je trouve, c'est qu'on les souligne de plus en plus et on les souligne de plus en plus partout au Québec. Donc, de plus en plus, on connaît maintenant mieux, pas encore assez, mais mieux l'histoire des Noirs, mais mieux surtout aussi la contribution de la communauté noire à travers le Québec.
Alors, et quand on parle des contributions, il y a quand même des gens qui sont très importants au sein de la société québécoise canadienne. Si je prends des personnalités comme Dr. Samuel Pierre du Grand Monde, ainsi que toute son équipe.
Tout à fait, Dr. Samuel Pierre. Au niveau de la médecine aussi, vous avez Dr. Bonny qui avait fait la première greffe, la première médecin qui a fait la première greffe de moelle osseuse chez un enfant au Québec. C'est tout un exploit aussi. Donc, il y a beaucoup de gens dans la communauté qu'on peut vraiment reconnaître. Il y a beaucoup de plus jeunes aussi, donc les jeunes intéressants qui sont en train de monter aussi. Donc, on a vraiment une belle communauté. Il faut la mettre en valeur. Et le mois de l'histoire des Noirs nous permet de faire ça. Ben, nous permet. C'est pas qu'on n'a pas la permission à dans les autres mois, mais ça nous donne vraiment une belle fenêtre pour le faire.
Et c'est notre mois et il faut en profiter.
Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, sur mon fil Twitter, à chaque journée ou presque, je reconnais une personnalité noire, soit de la communauté ou qui a marqué l'histoire.
Alors, moi, j'ai eu la chance d'être parmi les lauréats du mois de l'histoire des Noirs. C'était en 2004 avec d'autres confrères et consoeurs de la communauté noire. Et j'étais quand même assez fier d'être parmi, et je dirais, ces gens-là. Alors, Madame la ministre, vous avoir à l'émission, et ça nous donne l'opportunité de discuter quand même et la situation des gens qui, on peut parler par exemple des anges gardiens et des gens qui travaillent, qui font des travaux quand même assez difficiles dans les abattoirs. Mais malheureusement, pour les gens qui sont considérés comme des anges gardiens, et je sais qu'il n'y a pas de problème, étant du côté fédéral comme le provincial, mais pour des travailleurs non essentiels, par exemple, est-ce que vous avez un plan pour ces gens-là? Et on sait qu'il y en a plusieurs qui ont donné leur vie, et ça, c'est pour l'économie du Québec.
Et vous savez, on a un beau programme qu'on a mis en place pour les travailleurs qui ont contribué de façon très particulière, je vous dirais, à la première vague de la COVID. Et ce programme-là avait été mis en place pour les reconnaître de façon particulière. Maintenant, c'est évident qu'on est très reconnaissant à tous les travailleurs qui ont contribué, qui ont participé, qui ont travaillé dans le cadre de la COVID, quel que soit l'endroit où ils ont travaillé. Maintenant, ce programme-là s'adressait spécifiquement aux travailleurs de la santé qui étaient en contact direct avec nos malades et avec nos personnes aînées en situation de précarité, je dirais. Mais vous savez que le processus, je pense que vous parlez entre autres des demandeurs d'asile, le processus se poursuit de la même façon. Le processus est déjà établi au niveau du fédéral. D'ailleurs, j'ai une très bonne collaboration, une très belle relation avec le ministère fédéral. Et on s'assure justement de traiter les gens de la façon la plus... La meilleure possible, là, je dirais.
Alors, parlons maintenant d'un autre dossier qui, quand même, vous touche plus particulièrement, ainsi que votre gouvernement, c'est la question du racisme. Et comme on peut voir, on a un premier ministre qui reconnaît le racisme systémique. Il y a le premier ministre de l'Ontario, c'est la même chose. Et même le nouveau président des États-Unis, M. Joe Biden, il en fait foi au racisme systémique. Est-ce qu'il y a un problème de la part de votre premier ministre de dire un jour que le racisme systémique, ça existe?
Vous savez, M. Laurent, le racisme chez nous, c'est tolérance zéro. Et le gouvernement a déposé en décembre dernier un plan d'action contre le racisme. Plan d'action duquel, d'ailleurs, je suis excessivement fière, parce que j'étais, comme vous le savez, la coprésidente du groupe d'action contre le racisme. Et on a rencontré plus d'une cinquantaine de groupes. On a lu, je pense, à peu près toute la littérature existante. Donc, je ne sais plus combien de dizaines d'études, d'analyses, de mémoires, de rapports par lesquels on est passé. Et parmi tous les groupes qu'on a rencontrés, le consensus d'à peu près tout le monde, c'est que oui, il y a eu des rapports, il y a eu des analyses, il y a eu des définitions différentes, mais la vraie réalité, c'est qu'actuellement, on ne voit pas de changement concret. Il y a eu plein d'actions qui ont été proposées, on ne voit pas de mesures concrètes, de mesures cibles, mesurables. On n'a pas senti l'imputabilité. Et notre gouvernement, ce qu'on fait, c'est exactement ça. Qu'on va mettre en place des actions concrètes, mesurables, et on va exiger l'imputabilité dans le respect des résultats et la mesure des résultats de ces actions-là. C'est-à-dire qu'on va être le premier gouvernement, parmi tous les gouvernements, à nommer un ou une ministre responsable de la lutte contre le racisme. Donc, on a beau le qualifier, puis moi je l'ai dit plusieurs fois, on a beau le qualifier comme on veut, on était rentré dans faire une définition, positionner exactement ou qualifier le racisme, on serait encore autour d'une table à discuter. Ce qu'on veut faire, c'est mettre en place des actions concrètes, C'est exactement ce qu'on va faire. Et là où la ministre responsable qui va nous donner bientôt aura la responsabilité non seulement de mettre en place, d'actualiser les actions qu'on a déjà proposées, donc les actions que le groupe d'action contre le racisme ont déjà proposées au gouvernement, au premier ministre, mais en plus de poursuivre et d'en mettre plus. Donc, ce qu'on a déposé comme plan d'action, ce n'est qu'un début. Et l'objectif, c'est vraiment de régler ça.
Et Madame la ministre, avec tout le respect que je vous dois, je vous suis régulièrement. Les informations nationales, internationales, j'en mange le jour, la nuit et même dans mon sommeil. Et j'ai reçu des sociologues à plusieurs reprises, qu'il s'agit de la commission droits de la personne ou des individus attachés à la police, au service de police de Montréal. J'ai pas besoin de les nommer. Alors, et je peux vous dire que vous êtes le seul gouvernement qui n'accepte pas d'accepter, en dépit de tout ce que vous venez de me dire, le racisme systémique. On ne va pas faire un procès. Je connais tous les gens et il n'y a pas une conférence de presse de votre premier ministre ou les membres de son cabinet que je n'assiste pas. Mais j'espère qu'un jour, il va finir par voir, il faut l'accepter. Alors, et très courte réponse, avant de passer à la dernière phase, et Madame la ministre.
Oui.
Vous n'avez pas de commentaire là-dessus.
Ah, de commentaire. Écoutez, je pense que je vous redirais la même chose. Je pense que moi, j'ai toujours dit, j'ai dit en entrevue d'ailleurs, j'ai vécu du racisme. Est-ce que je me suis posé la question, quel racisme c'était? Non. Ce qui est important pour moi, c'est que les gens ne vivent plus ce genre de commentaires ou d'actes ou de situations. Et je pense que ce qu'on va mettre en place au niveau du gouvernement, ça va définitivement porter fruit. Et les actions le diront. Les actions le diront.
Alors, et toujours sur la question de votre travail, Mme Giraud, et ce qu'on remarque, des postes d'importance au sein du gouvernement du Québec, on n'en a pas beaucoup. Est-ce que c'est une question auquel que vous avez déjà discuté au sein de votre cabinet ministériel?
Les postes importants, vous voulez dire dans les gouvernements?
Dans les gouvernements, dans les bien sûr.
Ben écoutez, vous savez que dans une des actions au niveau du groupe d'action contre le racisme qu'on a spécifiquement déposée, c'est la question de la représentativité dans le gouvernement. Donc, si on veut que la population, que les entreprises agissent au niveau de l'embauche, non seulement l'embauche, mais la promotion dans les différents postes cadres des minorités visibles, il faut qu'on départ les différents ministères et les organismes gouvernementaux donnent l'exemple. Et ça, c'est une action qu'on a déposée, qu'il faut que la représentativité à l'intérieur des structures gouvernementales soit représentative de la population du Québec. Donc, c'est la première chose qu'on doit faire. On ne peut pas demander aux gens, demander aux entreprises de le faire, alors que le gouvernement lui-même ne le fait pas. Donc, quand vous dites les postes importants, bien sûr, il faut qu'on arrive là. Il faut qu'on y arrive. Et c'est une des actions spécifiques qu'on a mis en place. D'ailleurs, on a aussi parlé, non seulement des postes importants, mais des postes sur les conseils d'administration. Parce que là aussi, on voit très peu de minorités visibles sur les conseils d'administration d'entreprises, d'organismes gouvernementaux. C'est pas acceptable.
Je suis tout à fait d'accord avec vous et j'aimerais quand même vous féliciter pour la représentante et de la minorité visible au sein du cabinet de M. Legault. D'abord, vous en êtes un deux, vous et M. Carman. Et à l'Assemblée nationale, on est plusieurs qui sont représentés, la chef du Parti libéral du Québec, M. Franz Benjamin également. Alors je crois que c'est important, une très bonne représentation à l'Assemblée nationale. Mais pour terminer, je dirais, et Mme Giraud, et en tant que ministre des Relations internationales, vous connaissez ou bien vous avez entendu la situation du peuple haïtien Alors, je sais que votre père, s'il n'a pas resté en Haïti, ou bien votre famille, c'est à cause de la dictature que vous avez quitté Haïti pour venir à l'extérieur. Est-ce que vous avez joué un rôle? Est-ce que vous êtes consciente de ce qui se passe actuellement en Haïti? Et on voit que même l'Église catholique prenne position à envoyer une lettre au gouvernement de Trudeau de lâcher un apprenti dictateur actuellement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Mais écoutez, je suis parfaitement au courant de la situation en Haïti parce que, comme vous le dites, mes parents ont quitté dans le cadre de la dictature, mais j'ai aussi encore beaucoup de familles là-bas auxquelles je parle très, très régulièrement et que je voyais régulièrement avant la COVID, évidemment. Donc, je sais que le pays vit de grands moments d'incertitude, énormément d'instabilité. Les manifestations anti-gouvernementales se font sentir partout, des actes de criminalité, on dénonce des phénomènes de kidnapping aussi, donc je suis très au courant de ce qui se passe. Encore une fois, Haïti est dans une situation très, plus que délicate, là. C'est triste d'une part, oui, mais pour moi, Haïti représente, ça occupe une place importante, très importante. Je sais évidemment que le peuple haïtien, on est tous très vaillants, on est tous résilients. Je salue d'ailleurs ce courage-là. J'admire encore une fois la résilience dont le peuple haïtien fait preuve. Une fois encore, on dirait que ce pauvre pays est continuellement soumis à des problématiques de ce style ou des catastrophes. Et je veux dire qu'ils ont tout notre support. Le Québec a toujours été très proche d'Haïti, pas juste moi comme personne, mais le Québec en général a toujours été très proche d'Haïti. On a eu toujours une relation, pas juste d'amitié, mais d'amour avec le peuple haïtien, le peuple québécois et le peuple haïtien. Puis
c'est presque vraiment, toute famille, je dirais.
Oui, de famille, tout à fait, vous avez raison, de famille. Et je pense qu'on va continuer à supporter le peuple haïtien, l'Haïti et Haïti comme on l'a toujours fait. Vous savez qu'on a fait beaucoup de projets de coopération internationale, on a fait beaucoup d'aide, on a accueilli aussi beaucoup d'évacuer leurs tremblements de terre, entre autres. Donc, on va continuer à supporter de façon très proche la communauté haïtienne ici, mais aussi le peuple haïtien, définitivement.
Vous êtes au provincial, vous n'êtes pas au fédéral. Mais j'espère que non. Vous allez glisser un mot à notre cher premier ministre, le très honorable Justin Trudeau. Je l'ai dit à chaque semaine à mon émission, il aime les Canadiens d'origine haïtienne au Canada, mais il n'aime pas mon pays. Parce que les pays ont que des intérêts, mais pas le peuple. C'est là-dessus que je vous laisse, Madame Giraud. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot avant de nous quitter.
Oui. Ma profité saluée tout gazon, Akfam, haïtien, captain des radios. Et ma dino, KBFM, Palagui.
Eh bien, moi, bien content de vous, Madame Nadine Giraud. C'était un plaisir pour nous de gagner avec moi. Et puis, m'espérer que n'a pas fait l'autre entrevue encore. Et puis, bon succès.
Ça me fera plaisir, M. Laurent. Merci beaucoup.
Alors, c'était Mme Nadine Giraud que vous venez d'entendre, ministre de l'Immigration et de la Coopération internationale. Alors, Charles David, n'a pas salué où? Et comment nous y est?
N'a pas Kembe, en dépit des circonstances tragiques que vit ce pays.
Alors, et nous capables de dire que situation tellement grave, à côté que nous capables de dire que COVID-19 n'existe pas en Haïti. Regardez, il y a un apprenti dictateur, il y a un criminel, la fait et carnaval. Il prend coup d'État, là, le carnaval. 3 jours gras, il fait le pays, côté que nous, il y a des groupes musicaux qui gagnent le culot à l'afficher eux. Et by support yo au dictateur de la République.
Le monde ça remet au pays. On suppose que l'argent n'a pas d'odeur. Ça manque de monde, ça veut argogne. On prend un chuteur, je ne suis plus qui cap dit, et Jovenel Moïse, il t'arrive le mariage. Enfin bref, nous sommes bons dans une espèce de Dadio là, ou qu'on soit en déliquescence totale, pays arrivé dans un stade de déliquescence totale, ou bien on vague monde qui chita là, ça pas intéressé du tout dans le pays, d'ailleurs, il n'y a pas du nain, il y a pour y régler les problèmes. Moi, un jeune Jovenel Moïse qui a menacé le monde, qui a dit, ah, il n'y a pas de boule le monde, bon, il a menacé l'autre jour, il n'a pas parlé de APN. C'est beau ça que l'habitude de l'argent. C'est-à-dire que c'est un bon de Gog et Magog qui a fait en Haïti. Tant que le monde ne sait pas aller, tant que pas qu'on lavage, on lavage, et pas parler de lavage simple, ou bien, non seulement, je vois ambassadrice l'ONU qui met un rapport à combien de monde équipe sur Liban, mais enfin, c'est pas possible. Moi, je le répète toutes les semaines, ce n'est pas possible, et pourtant, ça existe. Hein?
Alors, Charles, non pas tellement arrêté sur ça, parce que le temps que nous gagnons, on croit que gagne l'autre bagaille qui est plus intéressant pour nous parler, et c'est que la situation non seulement est grave en Haïti, nous avons président pas pour régler rien, mais nous voyons que les Haïtiens des États-Unis n'ont pas arrêté les bras croisés comme nous-mêmes nous faisons à côté que nous décrétons la permanence dans l'émission Samedi Midi Inter, ça que nous demandons nos confrères des autres radios faire. Ils n'ont pas fait pour faire plaisir à Raymond Laurent ou à l'équipe de Samedi Midi Inter, mais ils ont fait pour Haïti côté que nous sortis. Nous voyons que gagnent des avocats et qui écrit à Joe Biden et qui également sollicite l'aide de NAACP. Et donc on est que l'OE et NAACP sensibilisés par cette question également. Eh bien, donc on est que il y a un pile monde qui est capable de dire Joe Biden, vous avez une dette envers vos compatriotes américains d'origine haïtienne.
Bon, c'est un fait certain que le conseil de pression qui a manifesté sur ce Benza, les pressions d'ailleurs augmentent pour quand même y résoudre un problème de base. Bon, une espèce de légère avancée qu'a fait là, parce qu'on voit que ce secrétaire d'État américain, pas parler de Jovenel, il commence à dire oui que le problème haïtien, il faut régler par le problème d'élection. Vous connaissez la formule, élection égale démocratie, oh, valeur élection qu'a fait en Haïti, pas gagné une qui aboutit à la démocratie. Bon, il n'en demeure pas moins qu'il y a une certaine lueur. Lueur, en dépit de l'argent que vous avez dépensé, c'est-à-dire les jeunes, les Laurent Lamothe, tout le monde s'est soulagé, tout le monde s'est gagné l'argent, eh bien, il y a une légère avancée qui permet tout quoi que d'ici une semaine prochaine, Biden a obligé de prendre une décision contre Jovenel. Il est vrai que l'ambassadrice américaine, l'ambassadrice l'ONU en Haïti, mon IAPC est bloqué parce qu'il ne faut pas avoir d'illusion. Mon IAPC a nagé dans l'âge corbe et il a nagé dans toute bagaille. Donc ils ne veulent absolument pas qu'il y ait un changement profond dans ce pays. Il est à constater que la grande manifestation qui a eu lieu l'autre jour, il faut nous préciser, manifestation pas de fait, pas parti politique, non. Manifestation, parti politique, vous n'entrez là-dedans après. Mais manifestation, c'est surtout les organisations de la société civile, jeunes, tout d'ailleurs. Ce qui veut dire qu'il y a un ras-le-bol général.
Alors, pour le bénéfice des auditeurs, tu parles de la manifestation de dimanche dernier,
oui,
qui était réunie près de 200 000 monde. Et il y a une icône que nous sommes capables de dire, c'est pour la première fois. Les piles macadam, non, l'été dans la manifestation, on a parlé de Liliane Pierre-Paul, que nous connaissons que c'est un type PHTK.
Bon. Alors, donc, il y a tout problème, ça, c'est-à-dire que nous avons manifesté depuis 2018, mais là, il y a sauté dans la rue, il y a sauté, et il n'y a pas une organisation qui a pignon sur rue en Haïti qui n'a pas demandé pour Jovenel aller. Donc, là, jamais finalement, où on est arrivé dans une situation, d'accord, c'est qu'on y a voté, mais il y a voté à pied, il y a marché. Donc, alors que l'autre bois, je viens de du problème de l'électricité dans tout le pays, la fait tout bagaille, mais le passeport aéroport international, pas de paix, la poulet, la menace le monde, comprennent les mille poils. Enfin, bref, une série de démagogies stupides qui pourraient ramener le pays non seulement à une dimension anecdotique, mais qui finalement ramener le pays à salière. Donc, je pense que les pressions doivent continuer à s'exercer sur Washington, parce que faut ne pas faire une illusion, nous perdons sous Washington. C'est toujours dur, il m'a répété le tout le temps. C'est une technique blanche, qu'elle tape sorti. Mais non, il s'est attaché blanc. Alors, il a subi des problèmes.
Alors, c'est ça que nous voyons, et nous voyons que gagne en pile, hein, et messages, en pétition qu'a fait en qu'a voyé by John Biden et compagnie, ainsi que le ministre des Affaires étrangères. Et nous voyons que c'est des mondes quand même qui connus et qui signent par un pile monde et du côté de la Floride pour dire Joe Biden, eh bien, ou t'es fait une promesse aux Américains d'origine haïtienne, faut exécuter. Et entre autres, nous capables de voir même la mère de Karine André, qui fait partie du staff du président Joe Biden, eh bien, elle est sortie en pétition avec l'autre monde pour demander compte à Joe Biden.
Oui, pression de Joe, il a continué à exercer. Mais en même temps, à cause d'une décision d'un tribunal qui bloquait temporairement, ce n'est pas deux mouns qui ont déporté en Haïti, non? Alors, tu comprends? Il y a l'envers du décor. Mais pour l'instant, le point essentiel, c'est de mettre un terme, une finalité qui permette pays ça sortir de l'hier.
Alors,
donc, je pense que pression a exercé tout côté, oui, en France, dans l'autre pays au monde, que Mounio a écrit et que Mounio conscient que soit ça, qu'on dit là, nous pas qu'à quitter Baïsa.
On a toujours dit Haïti d'abord.
Espérons-le.
Merci Charles, à la prochaine. Les salutations à ton épouse.
C'est gentil, je m'en crie pas.
Alors, c'était Charles David, analyste de Samedi Midi Inter de Radio CKUT.
Nous gagnons l'agréable plaisir de recevoir Madame Rosie Auguste, et responsable à la recherche dans RNDDH. C'est toujours avec plaisir que nous recevons le micro CKUT Samedi Midi Inter. Nabdiou, bonjour, comment nous y est?
Et bonjour, nous saluons tout auditeur, toute auditrice de Samedi Midi Inter. C'est toujours un plaisir tout pour nous avec nous.
Alors, le nous gardé, nous, ouais, peuple, les pagans, ils ont répit, dans sa relais, et du moins, crime, enlèvement qu'a fait en Haïti, côté que journalistes, organismes de la société civile, ils n'ont pas épargné, et même les non-partisans de l'équipe criminelle PHTK.
Et oui, effectivement, et c'est une situation qui est très préoccupante parce que nous comprenons tout que c'est une situation qui mettait en pile peur dans les monde qui vivent en Haïti parce que et nous pas jamais suspendre compter cas enlèvement et suivi de séquestration contre rançon et c'est surtout le fait que yo kimbé moun yo séquestré yo et qui a fait pression sur famille qui fait que il y a autant de peur parce que au final nous pas jamais connait pas gagne qui jamais connait qui ça et résultat pour allier parce que pas gagne aucune certitude par exemple que sous bail comme mandé a que a promet tout monde en vivant pas gagne aucune certitude tout que sous bail comme mandé a rapidement que pas faire monde en subi et des mauvais traitements et surtout mesdames yo subi souvent viol collectif et gagne en pile cas assassinat tout en pile cas de monde soit parce que pas gagne copyété bail du tout yo bail rendez-vous pour aller lever cadavre famille qui était dans main yo n'a parlé là de bandi yo ou du moins malgré le fait que bail cobla soit parce que pas de bail toute cobla que bandi yo était réclamé yo et c'est même scénario a yo mandé yo puis aller lever cadavre mais de toute façon que moun nan retourner la caille que moun nan pas retourner la caille toujours gagne en pile séquelles qui était en pile et bon c'est des monde qui détruit qui pas seulement détruit économiquement, financièrement, parce que nous connaissons que je ne jodi à la famille haïtienne a endetté jusqu'au cou pour le capable sauver yon moun qui nan famille ou kidnappé, mais en plus de ça tout, et c'est quel psychologique à un monde qui victime de kidnapping ça yo, que kimbe yo, et que yo tout a menacé yo, que a tué yo, que a tué l'autre monde devant yo. Écoutez, c'est vraiment grave ça que n'a vive là, je ne je dis à mon pays.
Là nous regarder, nous personne n'est épargné, et des professionnels que aux médecins et que aux étudiants, journalistes, et nous avons des avocats, et il n'y a pas un kidnappé. Et dans ce semaine-là, nous croyons entre mercredi et jeudi, il y a un petit monde de 5 ans. Le fait que maman n'a pas été réunie longtemps pour le bail là, il a tué un petit monde de 5 ans.
Oui, effectivement, il y a un petit monde de 5 ans qui a kidnappé. Maman, c'est un machin de pistache selon l'information que li bay, et des déclarations qui sont très poignantes. Hein? Et il y a tué un petit monde parce que maman n'a pas gagné $4,000 américains qui ont été demandés pour le verser, pour le récupérer. Un petit monde, il y a un rendez-vous pour aller dans Pombria, en bas Pombria, pour la jeune croix. Et effectivement, il y a allé, elle joue un petit monde de 5 ans, ça, un petit fillette innocente, nous comprenons ça, qui est victime. Mais effectivement, j'en dis là, pas bien qu'un monde, je ne dis à nos pays qui est épargné, et il prend tout le monde, il prend tout le monde de tous côtés, et je ne dis à tout, et ça qui plus fait peur, tout c'est que kidnappeur, il n'y a pas gagné un mode opératoire qui semblait, donc c'est pas tout cas qui semblait pour ta dire, ok, d'accord, puisque c'est mode ça qui mode opératoire, et par conséquent, mais qui j'en nous-mêmes, nous qu'a agi pour empêcher que nous victimes, donc ça fait que justement, tout le monde dans la société a nous vulnérables, et journalistes, avocats, juges, policiers, médecins, marchands de pistache, marchands de manger cuite, et n'importe monde qui dans le secteur professionnel là, n'importe qui a marché dans la rue, grand monde, petit monde, tout âge, donc tout monde dans la société a ou sujet à kidnapping.
Alors, il y a un petit dossier que nous avons mis nos fronts, parler de lui, c'est l'ancien maire de Port-au-Prince, eh bien, qui était prêt exil en République dominicaine, nous tendait toute qualité parole et sous ancien maire en Sahara, que Napoléon Yuri, et que nous connaissons, en fait, que nous avons déjà rencontré même dans Montréal, eh bien, il dit M. Patti avec un paquet de l'argent, et tout ça, c'est fausseté. Il dit que Haïti mandé pour le voyer le tourner en Haïti. Mais nous contacter avec un correspondant nous, pour nous dire ouais, est-ce que l'information est livrée avant que nous parlions de lui? Il dit mais effectivement, lui sous dossier et RNDDH sous dossier également. Qui ça qu'on capable de dire nous sur ça?
Qui ça que nous capable de dire, c'est que en fait depuis le agent la police te al débarquer la caille, il a écrasé et barrière la caille côté que t'a cherché, nous t'ai déjà alerté pour ça, et à partir de ce moment nous t'ai pris contact avec lui, et le ça m'a rappelé à l'attention de tout auditeur, toute auditrice de samedi midi inter que le ça magistrat Ralph Yuri Chéri, ancien magistrat Ralph Yuri Chéri, t'es Port-au-Prince, et là nous parler avec lui justement, il t'ai fait comprendre que premièrement 8 octobre 2020 direction centrale police judiciaire t'ai relé li présenté, yo auditionnel, après ça yo voyé le tourner la caille. Et à ce moment là, le tourner la caille, c'était clair, pas de gain rien que te reprocher, que te kembé dans quatre dossiers à payer contre lui. Dans quatre dossiers que t'as mené enquête sous lui ou bien enquête que t'as mené de manière générale. Maintenant, pour venir premier ça qui passé dans 7 février côté que des policiers brusquement 7 février 2021 brusquement des policiers aller écraser barrière li entre la caille li mandé pour li etc. Et puis depuis le ça tout li apprendre nous tout que li sous des menaces, li sous persécution politique. D'ailleurs, c'est ça qui expliquait que dans le document que nous-mêmes, au niveau de RNDDH, nous avons fait sortir pour nous dénoncer et ça qui est passé dans la nuit 7 pour IV, c'est ça, est-ce que c'est dans la nuit 7 pour IV 8? En tout cas, ça qui est passé, magistrat Ivikel da Brésil, côté que li te arrêté avec au moins 17 l'autre monde qui était avec li tout parmi yo yon inspectrice générale police nationale là nous toujours dans 7 février toujours et donc par conséquent nous vinn di OK d'accord nous dénoncer ça nous dénoncer que gagnait persécution ça yo que magistrat ancien magistrat Ralph Richevry était à victime mais maintenant li vinn déplacer li allé en République dominicaine et elle rivé en République dominicaine yo arrêté li. Nous même au niveau de RNDDH, automatiquement nous écrivons une lettre, nous adressons lettre là à ministre affaires étrangères de la République dominicaine, côté que nous faisons comprendre que depuis avant que ancien magistrat Ralph Richevry était allé au niveau de République dominicaine, il était déjà subi des persécutions politiques. Parce que je dis, nous avons une situation côté que c'est le culte de la personnalité de l'ancien président Jovenel Moïse, c'est tout. Le culte de la pensée unique et c'est supposé être la pensée unique de ancien président Jovenel Moïse et par conséquent nous fait ministre affaires étrangères République dominicaine n'en connaît que c'est un monde que nous-mêmes nous craignons que doit pas respecter si jamais il rentre sous sol pays d'Haïti et que tu avais fait une procédure judiciaire à l'encontre li et par conséquent nous mander pour que yo kembel et que yo bali asile politique. Mais maintenant effectivement gagne en pile rumeur qui t'a fait croire que t'a traversé République il t'a traversé frontière là avec en pile l'argent et que t'a gagne zam illégal nan meni et que c'est sous base ça que yo t'a arrêté. Premièrement nous dit que non, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, il y a un pile journal en République dominicaine qui fait sortir des articles et qui clairement dit qui ça que te gagne, qui ça que et ancien magistrat Ralph Richevry avec l'autre monde qui était avec lui, combien cob que te gagne en main, qui ça que te gagne en possession. Mais même au-delà de cela, nous voulons que tout le monde comprenne tout. Que travail nous, c'est travail de défense des droits humains. Depuis que nous voyons que gagne un risque, une menace, que n'importe droit que un monde gagne capable de violer, nous avons obligation pour nous intervenir. Et là n'a parlé de droit qui ca violer, c'est pas seulement droit à la vie, il ca droit à la vie, il ca droit à la sécurité, il ca droit aux garanties judiciaires. Et journée aujourd'hui à dans situation côté pays a et là, côté que nous gagne un ancien président qui était accroché au pouvoir qui parlait là ça nous gagnons et parlement qui dysfonctionnel nous gagnons un appareil judiciaire qui dysfonctionnel par conséquent nous gagnons un monde journée jodia qui réunit la cali toute attribution de tout trois pouvoirs pouvoir exécutif pouvoir judiciaire et pouvoir législatif et à ce moment pas gagne aucune façon pour monde capable faire système ça gagne la confiance donc c'est peut-être ça que non n'a prédit encore non seulement que li pas gagne tout monde que t'a arrêté dans machine yo pas gagne toute somme cob ça que a parlé yo liquide d'ailleurs et yo pas gagné en tout cas jusqu'à information que nous n'en yo pas gagné comme ça nan men yo pas gagné rien qui était illicite nan men yo mais même au-delà de cela c'est à toujours devoir nous pour nous dire que moun sa yo mérité protection parce que ce que yo kòb nan men yo le ça a posé yo t'a posé aux questions sur provenance kòb la qui gens comme ça t'a fait nan men yo que t'a des amis illégal nan men yo t'a posé aux questions sous provenance zami illégal ça yo t'a fait nan men yo mais quand t'a menace qui t'a gagné sous vie yo menace qui gagné sous respect droit à garantie judiciaire yo ça c'est devoir nous comme RNDDH organisation de promotion et de défense des droits humains pour nous intervenir sur le sujet.
Alors, non pas gagné un pile temps, mais gagné un témoignage que nous trouvons qui est très important en faveur de l'ancien maire de Port-au-Prince. Yon, c'est que c'est un compatriote qui a perdu toute famille dans le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Il a écrasé la caille. Et en plus, gagné un isolant que tout le monde connaît en Haïti. Que nous devons recevoir dans l'émission samedi midi inter ensemble avec Junior Moschino. Côté que nous voyons, M. Ren, un témoignage louable à tout sa cap dit sommaire, Yuri, ancien maire de Port-au-Prince.
Oui, effectivement. Effectivement, nous suivons toutes informations ça yo, mais nous-mêmes tout au niveau de RNDDH tout, nous parler avec lui, nous rencontrer le déjà tout et nous t'ai rencontré le tout lorsque il était magistrat, donc ça veut dire que et dans cadre saisir nous qu'a dit que et bien avant que il t'ait traversé en République dominicaine, nous t'ai saisi nous t'a dit de et dossier là de dossier persécution politique que les victimes je ne jodi.
Alors, nous connaissons la persécution, la continue, même le que pays a allé mal, il y a l'hôpital qui n'a pas de père, Kankou, et presque même là avec l'hôpital général, côté pas de rien, le regardé sur les réseaux sociaux, ton président il fait 3 jours gras, l'a gaspillé comme, et puis l'hôpital côté de sortir, il est dans cet état. Alors, c'est sur notre ça, on a quitté où, au moins, auditeurs, auditrices, y attendez, qui ça que l'on dit. N'abdou encore, un grand, grand merci, Madame Rosie Auguste, pour tant ça que vous accordez nous, parce que nous-mêmes, nous avons décrété la permanence dans l'émission samedi midi à terre.
D'accord, merci en plus. C'était encore une fois un plaisir pour nous avec nous, pour nous défendre parler sur la situation que je ne je dis à vivre en Haïti. Merci tout parce que nous décidons de quitter Fessoa sur Haïti. Haïti, je ne je dis à les besoins ça.
Merci, c'était Madame Rosie Auguste qui est responsable recherche dans RNDDH. Je salue également Pierre Espérance, le directeur général de cet organisme à but non lucratif.
Bonjour John Miller.
Bonjour Raymond, c'est avec plaisir, comme toujours, m'a participé à l'émission aujourd'hui.
Alors, et comme nous, maintenant, samedi midi inter, nous avons décrété la permanence dans le dossier d'Haïti, eh bien, rien n'a changé parce que la situation reste toujours très grave et inquiétante à l'intérieur du pays.
Bon, je suis capable de dire que beaucoup de choses ont changé parce que ça fait plus de 8 jours que je dis à la nous en pleine dictature. Donc, on a tout effort que vous avez fait, que vous avez toujours fait d'ailleurs, le mois à travers l'émission, hein, pour éviter que nous tombions dans ça. Je dis à la nous, bon président, qui est illégitime, déjà, il était déjà illégitime, mais je dis à lui, anticonstitutionnel, lui, inconstitutionnel. Donc, et nous gagnons tout signaux, tout indicateur d'autoritarisme, regardé. Pression qu'a faite sur le pouvoir judiciaire, hein, arrestation illégale qu'a faite sur le juge et influence exécutif là sur pratiquement toute reste institution. Et malgré que la majorité des secteurs de la vie nationale agit concernant la fin du mandat de l'ex-président Jovenel Moïse, il était accroché lui au pouvoir. Grâce à sa police politique, grâce au soutien des gangs armés et aussi de la communauté internationale. Donc, je suis capable de dire que semaine ça, c'est une semaine extrêmement difficile que la population haïtienne dans ce vivre-là. Et je pense que c'est une situation qui est inacceptable.
Alors, là, nous regardons, par exemple, nous voyons de plus en plus la persécution ou la répression a augmenté. Et le kidnapping, ça n'arrête pas. Et ce qui est plus grave, ce sont des partisans et de Jojo, ainsi que c'est les alliés et du pouvoir, et Cap-Fait, et Enlèvement Sayo, et les crimes que n'a pas réussi dans le pays.
Bon, en fait, si nous regardons ce qui s'est passé pendant la dernière semaine, là, capable clairement ouais que son persécution ciblée et 3 juges et de la cour de cassation hein le président révoqué de manière illégale et c'est des monde ou bien qui était pressenti pour venir diriger donc on pouvoir transitoire ou bien c'est des monde qui gagne des positions indépendantes par rapport à ça pouvoir le faire. Donc, nous regardons toute arrestation illégale qui est faite sous prétexte que tu as un coup d'État, tu as une menace de coup d'État, donc on a que son subterfuge. Et puis, l'autre persécution qui est faite, arrestation de monde dans l'opposition. Hein. Et on est capable de tout depuis 6 février jusqu'à maintenant, une répression systématique de toute tentative de manifestation qui a fait. Donc, nous sommes capables de dire que. Même gens, pendant le nazisme, tu as gagné la Gestapo allemande, même gens, tu as gagné Tonton Makoutchou sous Duvalier, nous voyons que le pouvoir, il a arrangé, il y a un groupe G9, il y a un BESAP, qui en principe sont unités qui là pour protéger les frontières, mais en réalité, sont milices qui ont protégé le pouvoir. D'ailleurs, dit ça, nous avons des preuves et, qui sont de plateau central, par exemple. Et nous avons une police qui totalement livrée là en répression aveugle de toute velléité, de toute possibilité pour le monde manifester, qui sont droits qui garantis par la Constitution et de tous les accords, tout accord international que Haïti a signé. Tout bagage ça est en danger, je dis alors Haïti. Donc, moi, c'est que c'est une situation qui est extrêmement grave. Et heureusement, il y a la presse internationale, il y a des acteurs internationaux, notamment au niveau du Congrès, et qui levaient voix. Il y a la presse au niveau États-Unis, New York Times, et Washington Post, Miami Herald, tout gros et journal ça a gagné des éditoriales qui publiaient, qui prennent position contre la dictature en Haïti. Et seul ça me capable de dire qui est très désolant aujourd'hui, hein, c'est le silence. Le silence est assourdissant du Canada, du gouvernement fédéral notamment, par rapport à tout ça qui a passé en Haïti aujourd'hui. Hein.
Et nous sommes capables même de parler de la France, comment que le dossier d'Haïti, les points, nous capables de dire que la France était vraiment réactif sur ce qui a passé en Haïti. Et ils ont même fait des lignes ouvertes à côté des gens de l'Afrique à intervenir sur le dossier d'Haïti.
Oui, oui, surtout à travers Radio France Internationale, qui est une correspondante permanente à Port-au-Prince, qui c'est Amélie Baron, journaliste très engagée.
Et qui est persécutée actuellement, oui. Il faut le dire.
Oui, nous avons des informations très pertinentes qu'elle a subi des persécutions, elle a subi des menaces. Et donc, on voit que c'est pas un jouet. Son dictature féroce qui a établi en Haïti avec l'appui, l'aval ou la complicité internationale.
Non, bagaille que nous capables de dire, le nous est que gagnent trois grandes universités et aux États-Unis, les plus grandes, qui dit que le mandat de Jojo l'y prend fin depuis le 7 février 2021. Est-ce que Jojo, avec tout un partenaire, un sweet Mickey, le plus intelligent, passe l'université, ça, et pas n'importe quelle université?
Bon, avant même de nous parler de l'université, il faut que nous notions que la Fédération des barreaux d'Haïti est en proposition sans équivoque par rapport à ça. Le problème de la Fédération des barreaux, c'est Mounsao qui vraiment, s'il n'a pas parlé de l'état de droit, son corporation qui regroupait les principaux experts, les principaux juristes, les principaux avocats de toute la République, aux propositions. Nous gagnons le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui prend position. Le mandat fini le 7 février 2021. Nous gagnons le Conseil des évêques, la plus haute autorité de l'Église catholique, nous prenons position. Nous avons des institutions religieuses protestantes qui prennent position. Nous avons pratiquement toutes les organisations de droits humains en Haïti qui prennent même position. Donc, nous avons l'université Kiskeya, qui est des spécialistes en question de droit constitutionnel, nous prenons position. Donc, position et université étrangère, il vient renforcer, il vient confirmer, ça nous te connaît déjà, que le mandat président est fini. Donc, seul, alors, il parle de coup d'État qui a fait le 7 février, moi, je dis, je dis ça dans l'émission récemment, effectivement, il y a un coup d'État qui a fait le 7 février. Mais le monde qui fait coup d'État, il y a les Jovenel Moïse. Parce que je dis à l'IRI était sous pouvoir en dehors de tout cadre légal, en dehors de tout consensus politique, en dehors de tout cadre normatif constitutionnel. Seul ça qui justifie la présence du Palais national, je dis, hein, c'est qu'il y a le monopole de la violence légitime à travers la police, il y a le monopole de la violence illégale à travers sa fédération de gangs, et puis il y a un avantage par rapport à support, capable de dire suspect, de la communauté internationale. Parce qu'il est clair que l'agenda Jovenel Moïse n'a pas un avantage pays. Et donc, il y a un acteur international qui supporte ça. Il tout dit, d'une manière à peine voilée, que l'agenda blanc pour Haïti n'est pas un avantage majorité population haïtienne.
Et une autre chose que nous sommes capables de souligner, John Miller, c'est que même firme que tête calice est payée en pile l'argent avec comme l'État haïtien, eh bien, c'est même firme ça. Que nous voyons du monde quand on bullshit et Jovenel, parce que nous connaissons bullshit, il fait un pile d'images, il baille un pile d'argent pour que Jovenel capabilité, et puis avec les hommes d'affaires riches, qui ne sont pas des Haïtiens, mais des gens venant de l'extérieur. On n'a rien contre des gens venant de l'extérieur, mais nous voyons que c'est Mounsayo qui pillait, nous dit, les biens du peuple haïtien, que Jovenel Bayo des contrats et à bon marché, bagaille qui vaut de l'or.
Oui, bon, en fait, diplomatie haïtienne, même capable de dire, je dis, elle est transformée en sorte de caisse de résonance, de propagande. Alors, on est, diplomatie, sont là, qui est très noble. Et quel que soit le pouvoir, il y a une dictature, le plus souvent, il y a des diplomates qui ont recul, qui ont capacité pour défendre les intérêts supérieurs de la nation. Mais je dis à ça, nous avons une bonne propagande, si on est dans le consulat, dans l'ambassade, qui a défendu l'intérêt du pouvoir, qui a parlé du changement de constitution, qui a parlé du référendum, tandis que il y a des sujets très sérieux, il y a des enjeux très sérieux. Que Haïti est capable de défendre sur la scène internationale. Mais malheureusement, on a ce qu'on a. Donc, c'est Mounsayo qui a dirigé le pays aujourd'hui. Et nous voyons que, effectivement, toute diplomatie haïtienne est orientée vers la propagande pour qu'il y ait ce pouvoir au monde que le mandat est fini. Et même le mandat n'est pas fini, mais son monde n'a jamais respecté le mandat. Son mandat nous l'a toujours dit. Mandat, ce n'est pas seulement durée, c'est contenu. Et c'est l'article 136 de la Constitution haïtienne.